Chapitre 7. Que lisez-vous là ? Disait un soir sœur Georges à Clémence, assise devant la cheminée, une brochure à la main. Je suis tentée de vous répondre comme Hamlet à Polonius, des mots, des mots, des mots. Quels mots ? Des mots vides de sens, employés pour défendre les idées modernes. Avec lesquels vous devez forcément sympathiser, dit sœur Georges avec ce ton ironique dont il cherchait en vain à se défaire vis-à-vis de Clémence. Non pas, vraiment. N'êtes-vous donc pas l'amie dévouée, la protectrice des pauvres ? Pas d'ironie, sœur Georges, vous savez qu'elle m'est antipathique. Ne cherchez pas à confondre la voix chrétienne qui dit aux riches « Donne, les richesses ne sont entre tes mains qu'un dépôt ». Leur bon usage t'ouvrira l'entrée du séjour des justes, avec la voix du démon qui crie aux pauvres « Arrière la pauvreté, arrière la sainte résignation. Il y a des riches et tu ne l'es pas, eh bien révolte-toi, déchaîne tes mauvaises passions, l'envie, l'orgueil, la cupidité et la rage. Abjure tout respect humain, vole, et si tu crains les gendarmes, vole au moins d'intention. » Il n'est que trop vrai, sœur Georges. Dieu permet quelquefois que, du sein des ténèbres, sortent des hommes marqués du sceau de la fatalité, dont la main allume d'immenses incendies. Mais à la lueur de ces incendies, les aveugles recouvrent la lumière, les tièdes se raffermissent, les prévaricateurs se purifient, et de ce bûcher sort, comme le phénix, plus belle, plus pure et plus radieuse, l'éternelle vérité qui semblait morte dans le cœur de l'homme. Courbons nos fronts, car nous méritons ce châtiment. Combien de femmes ont chanté ce religieux cantique et n'en ont pas moins porté leur tête sur l'échafaud. Quand le progrès s'avance, rien ne peut l'arrêter. Il écrase tout ce qui fait obstacle à sa marche. C'est un mal inévitable, mais nécessaire. Ainsi donc, ce que j'appelle une calamité, un châtiment d'en haut, vous l'appelez progrès, dit Clémence en souriant tristement. Vous connaissez, madame, la maxime des jésuites, la fin justifie les moyens. Ne faites donc pas, d'une maxime trop souvent adoptée par ceux-là même qui la reprochent aux jésuites, une règle de morale. Hélas, comme on abuse de tout aujourd'hui, l'orgueil de l'homme en est venu à espérer de pouvoir arracher des mains du Créateur le pouvoir de gouverner l'univers. Mais, grâce au ciel, notre pays n'a produit ni Cromwell, ni Marat, ni Robespierre, ces inventeurs, selon vous, du progrès humanitaire. C'est vrai, à de rares exceptions près, votre pays n'a produit que de parfaits égoïstes, d'où résulte une véritable anarchie qui fait que personne ne veut reconnaître un chef. Comme si, sous peine de se suicider lui-même, un parti ne devait pas adopter un chef. Mais dans votre pays, n'en est-il pas de même ? Le gouvernement de mon pays est mauvais et ses lois détestables. Oh, ne dites pas du mal de votre pays, s'écria Clémence avec ce naïf enthousiasme d'un cœur généreux. De ce pays, des grands hommes et des grandes choses. Pur paradoxe, madame, mais qui ne me surprend pas chez vous. Un esprit comme le vôtre doit préférer un paradoxe à une trivialité. Depuis que j'ai l'âge de raison, j'entends répéter la même gamme. Mais en réalité, la prospérité de l'Angleterre n'est due qu'au simple hasard. Et il faut être espagnol et conséquemment enthousiaste pour parler autrement. Vous n'avez pas l'amour de la patrie, sœur Georges, dit tristement Clémence. Étrange phénomène qu'un cœur privé d'un sentiment qui se trouve même chez les sauvages. La civilisation, qui tente à assimiler tous les pays en les modelant sous une même forme, doit nécessairement éteindre un sentiment qui ne serait plus qu'une anomalie. Depuis qu'avec les siècles héroïques, ce patriotisme, dont on fait tant de bruit, a cessé d'être une vertu primitive, il n'est plus qu'un égoïsme ambitieux dont se revêtent les partis politiques comme d'un costume de Régulus, non pas, comme le Romain, pour se précipiter dans un gouffre, mais pour se prélasser, en carrosse, aux frais de cette patrie adorée. De mieux en mieux. Mais alors, selon vous, quel est donc le meilleur gouvernement ? Aucun, madame. Aucun, mais l'ordre social. Il doit être le fruit de la civilisation, et alors, à quoi bon un gouvernement ? Voilà une utopie arcadienne bien faite pour les Champs-Élyséens. Dans l'oasis de quel désert avez-vous rêvé de la placer, sage Caton ? S'il n'y avait sur terre que de fervents chrétiens, stricts observateurs des principes de la religion, la chose serait peut-être possible, car M. de Bonal a dit « Le décalogue est la loi par excellence et la charte politique du genre humain. » Mais en attendant, vivons tels que nous sommes et jouissons de la vie. Combien nous différons d'opinion sur ce point, Sir George ? Pour moi, le but de la vie n'est pas de jouir, mais de faire le bien. On peut jouir sans crime, mon austère ami, mais les jouissances sont bien bornées sur cette terre. Savez-vous bien, Clémence, qu'il y a des moments où je paierai une simple velléité de jouissance de la moitié de ma fortune ? Vous êtes donc blasé sur tout ? Hélas, oui. Pauvre ami, dit Clémence d'un ton de sincère compassion, vous avez abusé des plaisirs de ce monde, mais les jouissances du cœur, les avez-vous éprouvées ? Quelle jouissance ! Je ne vous comprends pas. Il me serait difficile de les énumérer, elles sont si diverses, si nombreuses. Citez-moi au moins quelques-unes. Vous êtes pour moi une énigme que je ne puis cesser d'étudier. Tantôt c'est un enfant auquel il faut sourire, tantôt un être supérieur qu'on ne saurait trop admirer. Vous participez des deux essences. Votre ironie m'empêcherait d'être expansive devant vous. Non, Clémence, dit Sir George en prenant, à la mode anglaise, les mains de la jeune femme qu'il serra cordialement entre les siennes. Non, je ne suis pas ironique, croyez-moi. Le vieil homme dépouille, en entrant chez vous, son enveloppe imperméable et se présente à vous, régénéré. Je ne mets pas en doute vos bonnes intentions, mais, vous savez le proverbe français « Chassez le naturel, il revient au galop ». Nous changeons de rôle, Clémence. La colombe devient le faucon. Non, mais la mouche qui voit la toile d'araignée évite de se laisser prendre. Voudriez-vous me faire repentir de mes efforts pour dompter mon mauvais naturel ? Voyons, ouvrez-moi votre cœur. Quelles sont à vos yeux les jouissances véritables ? D'abord, les jouissances que procure la nature. Voyez ces beaux nuages, si purs, si transparents, qu'un souffle fait évanouir. Voyez ces fleurs dont le soleil développe les parfums. Ces horizons lointains dont la contemplation dilate et fait tressaillir l'âme. Ces eaux qui tantôt courent avec rapidité, emportées par un fougueux torrent, tantôt sommeillent et murmurent dans le sein d'un paisible ruisseau. Voyez la mer dont la puissante immensité semble rappeler à l'homme son néant, sa faiblesse et son impuissance. Assez, assez, Clémence, dit Sir George. J'ai parcouru les Alpes, les Andes, j'ai visité le Gange, le Niagara, le Rhin. J'ai traversé l'océan Pacifique, la mer Atlantique, la mer du Sud, et j'ai vu leurs tempêtes. Eh bien, rien de tout cela n'a pu me procurer une jouissance. Je n'ai rien rencontré d'égal à la hauteur de ma pensée, et je me suis seulement écrié « Quelle exagération chez les poètes !» Mais les joies de la famille ? Demanda Clémence, sans s'expliquer pourquoi son cœur se serrait. Vous savez, répondit Sir George en souriant, que je suis encore garçon. Selon moi, un homme ne doit se marier que lorsqu'il a appris une complète expérience de la vie. Cette expérience est donc plus nécessaire au mari qu'au garçon ? Sans aucun doute. Aussi les Français, experts en la matière, ont si bien compris la chose qu'en parlant du mariage, ils disent « faire une fin ». C'est-à-dire quand la jeunesse s'en va, quand la vieillesse arrive, prendre, pour remplir les fonctions de garde-malade, une jeune fille qui débute dans la vie. N'est-ce pas là ce que vous voulez dire ? Précisément, quand on ne peut plus être quelque chose de plus divertissant, on se fait père de famille. À ces mots, Clémence sentit comme un poignard aigu qui s'enfonçait dans son cœur, et elle éprouva un amer sentiment d'humiliation, mais elle ne tarda pas à se remettre. « N'avez-vous donc pas une mère ? » dit-elle. « Ah si, ma mère existe. » « Et vous ne l'aimez pas ?»«
Je l'aime comme elle-même. »
« Où habite-t-elle ? »
« Je crois qu'en ce moment, elle voyage en Italie. »
« Et votre père ? » ?»«
Mon père, qui était général, mourut dans l'Inde après avoir ravi à Tipu Sahib une immense fortune. »
Une vive rougeur monta tout à coup au visage de Clémence. Une fortune puisée à une semblable source, quoique puissent autoriser les barbares lois de la guerre, ne semblait à la jeune femme ni honorable ni bien acquise, mais entendre un fils traiter froidement son père de voleur, c'était une parole qui remplissait son cœur d'épouvante. Sans même s'apercevoir de cette émotion, Sir George poursuivit. « J'ai trouvé dans mon héritage un diamant magnifique que Tipu portait sur la poignée de son sabre. Voudriez-vous, Clémence, l'accepter comme le souvenir d'un ami ?»«
Merci, répondit Clémence, je ne fais qu'à des souvenirs que lorsqu'ils viennent du cœur. »«
Je vous l'offre cependant, comme disent les Français, de bon cœur. Acceptez-le, vous en parerez votre madone favorite et vous ne pourrez la regarder sans penser à moi. »
« Sans être prude, je ne puis m'empêcher de vous faire observer, Sir George, que votre langage est pour le moins irrévérencieux.
Acceptez alors ce diamant comme une image de votre cœur, aussi pur, aussi dur que lui, comme l'emblème de la force et de la constance de mon amour. »«
Brisons-la, Sir George, dit sévèrement Clémence. Le mot seul de cadeau m'est odieux. Reprenons notre entretien. » »«
Bien volontiers. Revenons aux jouissances. Bien que, pour moi, il en soit d'elles comme des couleurs pour un aveugle. Épuisons votre liste. »
Les jouissances de l'amitié, dit Clémence. N'avez-vous pas d'amis ?
Si, quelques-uns dans le Parlement, à l'ambassade française, un cardinal à Rome, un pacha à Constantinople, et ici, Don Gallo, parce qu'il est le vôtre. Mais à parler franchement, Clémence, aucune de ces amitiés ne m'a procuré de jouissance.
N'avez-vous jamais eu l'occasion de rendre service à ces amis ?
Jamais. Je leur ai prêté quelquefois de l'argent, excepté au cardinal et au turc, qui étaient plus riches que moi, et à Don Gallo, qui ne m'en a jamais demandé. J'aurais été heureux d'obliger votre ami.
Jamais Pando n'a rien demandé à personne, répliqua Clémence. Et si jamais il avait besoin de quelque chose, il a des amis plus anciens auxquels il donnerait la préférence.
À combien se monte son traitement ?
À 7 000 réaux.
Vous voulez plaisanter ?
Pas le moins du monde.
Sir George partit d'un éclat de rire, si franc et si prolongé qu'il devint communicatif, et Clémence ne put s'empêcher d'y prendre part en lui disant
« M'expliquerez-vous, Sir George, ce qu'il peut y avoir de si plaisant dans ce chiffre ?»«
Madame, répondit-il, c'est tout juste la moitié des gages de mon valet de chambre. Peut-il donc se trouver, ajouta-t-il, des hommes assez dépourvus d'énergie pour consentir à demeurer toute leur vie dans un semblable bourbier ?»
Et ce qui excite ma gaieté, Clémence, c'est l'impudence de ces bureaucrates de bas étage qui se présentent effrontément dans des maisons comme la vôtre et, grâce à votre tolérance, prennent place dans votre société à côté des personnages les plus haut placés.
Je ne changerai pas, milord, s'écria Clémence. Votre critique amère pour le plus bel éloge. Heureux le pays dont les idées simples et conciliantes ne sont pas empreintes de cette fierté insultante qui cause souvent tant de révolutions.
L'aristocratie n'est qu'un mot vide de sens dans votre pays, madame. Vous pouvez l'effacer de votre dictionnaire. Vos gentilshommes n'ont, à quelques exceptions près, aucune des qualités qui constituent une véritable aristocratie. Votre Sénat, vos chambres sont populaires et partagé par des opinions plus personnelles que politiques. Votre société est polie, élégante, agréable surtout, mais déplorablement mêlée.
Et celle d'Angleterre ?
Elle l'est aussi, j'en conviens, mais chez nous, pour parvenir à l'aristocratie, il faut un poids de plus de millions que vos banquiers, tous ensemble, ne pourraient en réunir.
Ce que vous possédez surtout en Angleterre, Sir George, c'est un orgueil excessif, insupportable et fort grossier.
L'orgueil, madame, est une sorte de cuirasse qui, toute grossière que vous voulez bien l'appeler, est une excellente arme défensive.
Et offensive aussi, ajouta Clémence d'un ton un peu piqué.
Comment vous, qui faites partie de cette Olympe aristocratique, avez-vous pu en descendre pour venir jusqu'à moi, pauvre espagnole, à l'esprit sans culture ?
Toute jolie femme, répliqua Sir George en riant, entre de droit dans notre Olympe, et les vôtres sont imprescriptibles.
Mais dites-moi, avez-vous épuisé le catalogue de ces jouissances, si précieuses à vos yeux ?
Clémence garda un moment le silence.
N'avez-vous jamais éprouvé la jouissance consolatrice des sentiments religieux ? Dit-elle enfin, en faisant passer toute son âme dans son regard doux et serein.
Ne parlons pas de religion, Clémence.
Pourquoi ? J'attends avec curiosité votre réponse.
Parce que les opinions religieuses, relevant seulement de la conscience de chacun, nul n'a le droit de les scruter.
Je n'admets que deux motifs à ce mystère et à cette réserve, dit Clémentia. L'un consiste à ne pas attacher d'importance à ses croyances, l'autre, pire encore, en avoir aucune. Et dans les deux cas, je vous rappelle ces paroles du maître, « Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. »
Est-ce donc à dire, Clémence, que, ne partageant pas vos opinions, je suis condamné par votre religion ? Vous êtes bonne, donc je suis méchant. À vous le bonheur, à moi la réprobation. Jolie religion.
Ma religion, loin de m'enseigner, me défend de condamner personne, dit Clémence avec une douceur angélique. Et peut-être me sera-t-il demandé un compte plus sévère qu'à vous.
Pourquoi, madame, la chose serait-elle étrange ?
Parce qu'il sera d'autant plus exigé de celle qui a eu le bonheur d'ouvrir les yeux de la raison dans un saint couvent et les yeux de l'entendement auprès d'un sage mentor entouré de bons exemples et de saintes pratiques, et qu'il sera d'autant plus pardonné à celui qui, comme vous, a eu le malheur d'être élevé parmi les infidèles, saturé de l'atmosphère corrompue d'un monde philosophique, sceptique, injuste et méchant.
Mais enfin, Clémence, demanda Sir George, resté froid devant ces paroles de miséricorde, de douceur et d'onction. De quelle jouissance religieuse voulez-vous me parler ? Est-ce des jouissances ascétiques que les catholiques illuminés rencontrent dans la pénitence et dans le cilice ? Est-ce des jouissances du paradis de Mahomet ? Si vous êtes la houerie que je devrais y rencontrer, j'incline pour la religion du Coran.
Ou gardez le silence quand on vous parle sérieusement, Sir George, ou combattez avec des armes loyales les arguments qu'on vous oppose.
Vous voudriez, je crois, dit Sir George, d'un ton enjoué et caressant, faire de moi un prosélyte.
Je n'ai pas cette prétention et jamais je ne l'ai essayé. Je répondais simplement à votre question, n'en parlons plus.
Après ces mots, Clémence resta quelques instants pensive. L'immense distance qui déjà séparait ces deux âmes venait de s'augmenter encore, mais Georges était son premier amour.
Si je pouvais, se disait-elle, éveiller chez lui quelques bons sentiments, si je pouvais trouver la corde sensible de ce cœur endurci.
Bientôt, fixant sur l'homme qu'elle aimait, son franc et limpide regard,
« Sir George, dit-elle, n'avez-vous jamais essayé de faire du bien à personne ?»«
Je crois que si, mais je ne m'en souviens guère. »«
Vous savez, ajouta-t-il avec sa grave ironie, ce que dit la maxime ?»«
Que la main droite ignore ce que fait la main gauche. »
Je puis vous dire cependant, pour vous rassurer sur mon compte, que j'ai chargé mon intendant à Londres de m'affilier à quelques sociétés philanthropiques. C'est un devoir pour les gens riches de chercher à guérir la lèpre du paupérisme.
Ce n'est pas de cela qu'il s'agit. N'avez-vous jamais, de vous-même et par vous-même, cherché à secourir la misère ?
La chose ne me paraît pas nécessaire. Nécessaire ou non, l'avez-vous fait ?
À quoi bon ? Ce que le pauvre demande, c'est à être secouru, sans s'inquiéter de la main qui lui fait l'aumône. Mais je serais heureux si vous vouliez bien m'associer à vos bonnes œuvres.
Volontiers, et je vous mettrai de moitié dans ma première œuvre de charité, mais cela ne suffit pas. Si vous voulez me plaire, il faut que dès demain, vous fassiez vous-même de votre propre main l'aumône au premier pauvre que Dieu enverra sur votre passage.
Cela vous fera plaisir ?
Oui.
Est-ce un ordre ?
Non, c'est une prière.
C'est tout un pour moi.
Je préfère la complaisance à l'obéissance.
Mais enfin, quel est votre but ?
Celui de savoir si vous éprouverez quelque jouissance à faire le bien par vous-même.
Je puis vous garantir d'avance que la jouissance de vous être agréable l'emportera sur tout autre.